Prions. Notre Dieu, notre Père, on veut te rendre grâce avant de commencer à étudier ta parole, à voir ce que tu as à nous dire, parce que c'est le but pour lequel tu nous l'as donné. Nous devons l'étudier, nous devons la comprendre, nous devons la mettre en pratique. Et je te demande, Seigneur, de me transformer à travers cette parole et de toucher le cœur de mes frères et sœurs, Seigneur, parce qu'on en a toujours besoin. On est des personnes oublieuses et c'est bon de se faire rafraîchir les choses de temps à autre. Merci pour ce temps que j'ai passé à étudier, à regarder cette parole, Seigneur, et pour les lumières de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. On met la première. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. C'est un texte de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Et c'est un avertissement que Christ livre à l'Église de Philadelphie. Mais en même temps, je pense que c'est un avertissement pour nous-mêmes. Suivant. À propos, qu'est devenu mon premier amour? Ça, c'est moi qui me pose la question, vous la poserez si vous voulez. Il ne s'agit pas de mon amour pour Mireille, vous en doutez bien, même s'il est toujours aussi vif, quoique imparfait, très imparfait. J'ai aujourd'hui plus de 23 ans, vous vous en doutez. Et bien entendu, je parle des années passées sous la grâce de Jésus-Christ. Comme sans doute la plupart d'entre vous, j'ai vécu une période tout feu, tout flamme le lendemain, le jour de ma conversion. J'en parlais à tout le monde autour de moi, mes voisins, mes amis, ma parenté, m'attendant à ce que tous acceptent de mettre leur vie sous le joug de Jésus-Christ. Puis, la réalité m'a rattrapé, ce n'était pas si simple. C'est souvent le refus d'écouter que j'ai entendu, ou la contestation, ou la mise en doute. J'ai aussi fait du porte-à-porte, des croisades d'évangélisation, avec toute la déception des lendemains qui déchantent. On fait le processus, et le lendemain, « Oh non, j'ai changé d'idée, etc., etc. » Alors, c'était assez déprimant. J'ai aussi étudié, servi, prié, rempli divers ministères et diverses missions avec la grâce de Dieu. Dieu avait mis ça dans mon cœur. Je fais partie de la famille de Credo depuis bientôt 5 ans, et j'en remercie le Seigneur. Bon, je l'avais dans le cœur bien avant ces 5 ans-là. Je suis en paix avec Dieu, mais moins avec ma vie chrétienne. Il y a comme un malaise. Je ne sais trop quoi qui me manque et qui manque au niveau des sentiments. J'ai comme un manque de paix avec moi-même. Ensuite, puisque nous avions plus ou moins amorcé ce thème lors de notre camp credo l'an dernier, j'ai fait il y a quelques semaines la lecture d'un livre sur le discipleship, « Comment faire des disciples, suivre Jésus ». Ce n'est pas que la Bible n'est pas suffisante pour nous en parler, mais parfois, une fenêtre ouverte par une lecture nous change notre perception. J'ai pu découvrir grâce à ce livre ce qui manquait à ma paix. Et peut-être ce qui manque à la paix de certains d'entre vous. Il y a toujours quelque chose qui nous dit « Ah, je ne suis pas en paix avec moi-même ». Et là, je ne veux pas mettre de pression sur personne, que personne ne s'identifie à ce que je veux dire. C'est personnellement. Mais ça peut toucher. Le texte de cette lecture que j'ai fait m'a porté à l'examen de l'état de mon premier amour. Où est-ce que j'en suis rendu avec ma marche avec Jésus? Celui que j'avais déclaré à Dieu devant plusieurs témoins lors de mon baptême, ce texte m'a donné aussi la conviction de ne pas avoir totalement suivi Christ dans tout ce qu'il me demandait. Même si parfois, je faisais. Et particulièrement dans le domaine du discipleship. Malgré toutes les promesses liées à cette œuvre, parce qu'il y en a des promesses liées à faire des disciples, Une des raisons était que je n'en avais peut-être pas une idée très claire de ce que c'était. Oui, on nous dit, on va parler aux autres, parler, mais il y a autre chose, ça va plus loin. Heureusement, je perçois aujourd'hui des choses qui me redonnent peu à peu cette paix. Je vous propose donc ce matin un message pas tellement conventionnel. Soit la lecture d'une grande partie de ce texte, entrecoupé de parenthèses, qui m'a touché en espérant que vous le soyez également. Cette lecture sera entre... c'est ça. Vous allez peut-être me suggérer de me reposer sur la grâce. Il y en a un qui va me dire ça, je suis certain. Marc en a... Bon, on en a parlé abondamment l'année dernière de la grâce. Et même il y a 15 jours, je pense qu'en Marc a parlé de l'aiguillon dans la chair. C'était une grâce. Je suis d'accord avec vous pour ça. La grâce est là. Oui, la grâce abonde, elle est inépuisable. Mais, comme disait Paul en Romains 6,15, mais quoi? Est-ce qu'on va encore pécher? Sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous le régime de la grâce. C'est une question qui pénètre. Est-ce qu'on va continuer à pécher? Est-ce qu'on va continuer à ne faire que ce qui nous plaît? Si je ne fais pas ce que Dieu me demande, je pêche. Je n'ai pas à tortiller, peut-être pas. Si je ne fais pas ce qu'il me demande, je pêche. Et la grâce de son pardon, à ce moment-là, intervient. Mais est-ce que je vais refuser de faire jusqu'à la fin de mes jours ce qu'il me demande? Sous prétexte que la grâce est toujours là, et qu'au bout du compte, j'ai mon passe-droit. Comment pourrais-je paraître devant celui à qui j'appartiens, à qui j'ai soumis ma vie, ma volonté et mon amour? Que lui répondrai-je quand il me demandera « Qu'as-tu fait du temps que je t'ai laissé? » Encore là, c'est pas le temps du travail, c'est pas le temps de dormir, c'est pas le temps de faire des repas, de s'occuper des enfants. C'est le temps qui reste. Dieu nous laisse faire ce qu'on a besoin de faire. Qu'as-tu fait de ma demande de faire des disciples? Est-ce que je vais m'asseoir sur mon passeport pour le ciel alors qu'il y a des milliers de personnes à chaque seconde qui vont en enfer? Oh, il serait facile de répondre que de toute façon, tous ceux qui sont élus seront sauvés. Ou de mal interpréter la phrase de Jésus en Jean 17,6 et suivant, lors de sa prière sacerdotale, qui disait « Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu ». Mais Jésus priait alors pour des disciples que son Père lui avait donnés. Et c'est à ses disciples que Jésus a donné un commandement. Clair, un ordre précis à exécuter juste avant de nous quitter. Faire de même. Pas seulement des sauvés, mais des disciples. Des gens qui suivront le modèle de son Fils. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Poursuivre l'œuvre initiée par Jésus, poursuivie par ceux qui nous ont précédés. C'est dans cet état d'esprit que je voudrais vous lire justement le texte, une partie du texte témoignage de Francis Chan. Pour ceux qui ne connaissent pas Francis Chan, c'est un pasteur aux États-Unis qui était l'auteur de Crazy Love. Je pense que beaucoup de personnes ont dû lire Crazy Love. Et le livre de David Platt, c'est « Follow me ». Suis-moi. Alors, quand j'entrecouperai, je vous dirai, j'ouvre une parenthèse, pour pas faire dire à l'auteur ce que j'ai pas dit. Mais j'ai trouvé que, pourquoi réécrire ce qui me semblait tellement percutant, j'aurais certainement pas eu la même main d'écriture que Francis Chan. Francis Chan était un enfant qui a été adopté à très bas âge, chinois. Alors, vous allez un peu comprendre tout le cycle qui va suivre. Alors, je commence. J'ai fait tout ce qu'on attendait de moi. J'ai implanté une méga-église. J'ai écrit un best-seller, j'ai fondé un collège, implanté d'autres églises et pris la parole dans beaucoup de conférences. Mais j'avais tout un problème. Je n'avais pas la paix. Je n'étais pas en paix. En me fondant sur la lecture de la parole de Dieu, je trouvais trop d'inconsistances à ma vie. C'est toujours lui qui parle, hein? Mon style de vie ne ressemblait pas à la vie de Jésus. comme on la lit dans les Écritures. Et l'Église que je voyais dans les Actes me semblait une Église étrangère. J'ai réalisé que Jésus vivait dans une culture différente et que les Actes avaient été écrits dans un temps défini de l'histoire, un temps précis. Mais je demeurais convaincu que certaines caractéristiques devaient être encore valables aujourd'hui dans les chrétiens et dans l'Église, chez les chrétiens et dans l'Église. J'ouvre une petite parenthèse. Les gens qui nous entourent, tous ceux qui nous entourent, que ce soit à Beauport, que ce soit à Charlebourg, que ce soit à Québec, Sainte-Foy, sont d'une autre culture. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Mais ils sont d'une autre culture. Ils parlent pas le même langage. Ils ont pas les mêmes habitudes de vie. Ils sont totalement, ce sont pour nous, jusqu'à un certain point, des étrangers. Je referme. Et je poursuis. Ce ne fut pas une surprise ni pour mon épouse ni pour moi. On sentait que le Seigneur nous dirigeait vers une nouvelle aventure. Après 17 ans de ministère fructueux dans une ville, les 17 ans où on était mariés, nous laissions des relations profondes et irremplaçables pour aller vers de l'inconnu. Il décidait de quitter l'Église et le pays. Je ne recommande pas cela à tout le monde. Ce n'est pas le plan de Dieu pour chacun de nous. Mais ce fut le nôtre. Simi Valley, là où il travaillait, n'était, semble-t-il, plus l'endroit où j'avais le plus besoin de répandre l'Évangile. Il pensait que là, c'était déjà, il y avait assez de monde qui le répandait, il y avait quelque chose de nouveau qu'il fallait faire. Je me suis battu avec le fait que plusieurs églises enseignaient la Bible dans cette petite ville. C'est une petite ville. J'avais du mal à constater qu'une seule église pouvait avoir autant de leaders, de bons leaders, d'expérience, alors que d'autres en manquaient ou n'en avaient tout simplement pas. J'étais frustré de mon incapacité à motiver les gens à structurer leur vie autour du ministère du discipleship, faire des disciples. Je pouvais remplir un auditorium, prêcher, et motiver les gens à structurer leur vie autour du ministère du leadership. Mais sitôt, je n'arrivais pas à les convaincre de quitter la salle et d'aller faire des disciples tout de suite. Je pouvais produire l'excitation, comme quand on entend un bon message, on est excité, ah, c'est bon, mais pas l'urgence. Il n'arrivait pas à communiquer l'urgence de son message. Je savais que Jésus voulait plus pour son Église. Je ne savais pas exactement quoi, et je ne savais pas non plus comment. En faisant une rétrospective, j'ai pu constater qu'une partie du problème venait de mon exemple. Nous savons qu'il est difficile d'enseigner à nos enfants à faire quelque chose qu'on ne fait pas nous-mêmes. Je pense que là, même les célibataires doivent savoir ce qu'il en est, parce que tu dois donner l'exemple. Je demandais aux gens de faire des disciples dans mon église, alors que mes journées étaient occupées à résoudre des problèmes et à préparer des sermons. Je désirais que les gens partagent plus régulièrement leur foi alors que je le faisais rarement. Je m'attendais à ce que l'Église vive de manière aventureuse alors que moi je restais dans ma petite routine. La paix a commencé à se réinstaller dans mon cœur quand nous avons vendu la maison, empaqueté les affaires et parti pour l'Asie. Il est assez bizarre de constater, dit-il, comment l'incertitude peut apporter la paix alors que la facilité peut provoquer le contraire. On a choisi l'Asie parce que j'avais entendu plusieurs histoires au sujet de la foi des croyants qui y habitaient. Je voulais un témoignage de première main. On va aller voir sur place. Et voir si le Seigneur m'appelait là-bas. Je croyais que je serais plus à ma place outre-mer et que je serais plus utile dans une culture différente, quoique lui-même étant asiatique de naissance, mais il pensait que ça serait meilleur. Peu importe ce qu'il en résulterait, je prenais plaisir à la démarche. Ce fut une course dans ces contrées étrangères. Il est allé dans quelques pays. Priant avec ma famille et demandant à Dieu s'il voulait que nous y demeurions, Et de plusieurs manières, c'était comme un rêve devenu réalité. J'ouvre une parenthèse, je constate, moi, qu'il y a longtemps, je n'avais pas remis en question mon service pour Dieu. Parce que c'est pas le tout du salut. Et après ça, servir le Seigneur. Mais la routine commence à me peser, moi aussi. Et je dis pas ça pour l'Église. J'aime l'Église, credo. J'aime ce qui s'y passe. J'aime ce qu'on y fait. Mais la routine personnelle. Et il est grand temps pour moi de voir ce que Dieu veut que je fasse dans les quelques prochaines années qui me restent, peut-être. Et qu'il m'accorde pour faire connaître son nom. Heureusement, un déménagement au sein d'une CEM, d'une communauté en mission, semble vouloir me faire le plus grand bien. Et je crois que ça va être bénéfique pour moi et pour d'autres, j'espère aussi. Et je reviens, je ferme la parenthèse. Nous avons appris beaucoup pendant notre séjour en Asie. Mais j'en suis arrivé à la conviction que le Seigneur n'en avait pas fini avec moi aux États-Unis. Il voulait que je prenne ce que j'avais vu, ce que j'avais appris là, et que je le ramène avec moi. Leur passion, leur engagement me rappelaient ce que j'avais lu dans les Écritures. Ils vivaient le christianisme du Nouveau Testament au 21e siècle. Ils ont démontré avec quelle rapidité et efficacité l'Évangile se partageait lorsque chaque croyant faisait des disciples. Je suis convaincu que leur mentalité et leur approche à l'Église pouvaient être tout aussi transformatrices aux États-Unis et aussi chez nous. Il suffit seulement de le vouloir. Ainsi, là, il parle de son retour. Ainsi, je suis revenu aux États-Unis. Je ne sais toujours pas quel est tout le plan de Dieu pour moi, tout comme pour moi au sein de la CEM non plus. Mais ce fut une des meilleures périodes de ma vie, le retour. Il reste des places en avant aussi, mais... Penses-tu que ça vaille la peine? Ok, on va t'en chercher encore un petit peu. Non, mais m'amène-moi pas dans la bouche, là, quand même. Je veux voir les gens, quand même. Non, pas si haut, pas si haut. Merci. Merci, Samuel. Nous avons appris beaucoup durant notre séjour en Asie, mais je suis arrivé avec conviction, c'est ça, en Amérique. Oh, ça me fait peur de mon retour. Le retour. Où est-ce que j'en étais? Vous voyez, la mémoire des vieux, c'est ça. Ça va venir. Une église grandit là où le fait de faire des disciples est prioritaire. Et là où l'unité est naturelle. Nous sommes vite devenus une grande famille. Il a passé le plus clair de son temps avec des amis de San Francisco à faire des disciples. Et là, il était heureux. Allant de place en place, expliquant l'Évangile à tous ceux qui voulaient bien écouter. Et il disait ceci que j'ai souligné, « Ma paix est plus profonde quand je suis à la poursuite des gens qui ne connaissent pas Jésus. » J'imagine l'image, je vois tout de suite l'image, là, il voit du monde courir après la personne et lui parler de Jésus. J'ai hâte de vivre la même chose dans Pointe-Sainte-Foy. C'est parce que ça semblerait là qu'on va commencer le projet. Ferme la parenthèse. J'ai constaté une croissance spirituelle impressionnante chez mes enfants. J'aime les regarder partager leur foi et entendre raconter avec quelle excitation ils témoignent du surnaturel. Nous avons vu Dieu répondre à des prières de manière surnaturelle. Là, un petit point vers la prière pour nous autres. Nous sommes moins attachés au monde et plus orientés vers l'éternité. Mon épouse et nos enfants deviennent plus comme Jésus et notre style de vie est plus conforme aux enseignements du Nouveau Testament. Là, encore une fois, je veux pas être légaliste, mais la parole de Dieu est là. On la lit et on la prend pour nous comme on peut la prendre pour nous. L'Église dont je fais partie est en croissance, mais elle va dans la bonne direction, dit-il. Elle devient de plus en plus ce que je vois dans les Écritures. Il y a de la vie, de l'amour, du sacrifice, de l'engagement, de la puissance, toutes ces choses dont a besoin une Église. La grande partie de mon temps est actuellement consacrée à faire des disciples, et c'est dans ce cadre de mon ministère que ma vie prend tout son sens. Le but n'est pas d'avoir une petite ou une grosse église. Le but consiste à découvrir comment garder la grande commission sur la ligne de front de la pensée de chaque croyant. Qu'on ait ça sur la ligne de front, comme une armée. On sait que sur la ligne de front sont les plus vaillants, souvent, ceux qui risquent leur vie, qui risquent autre chose. Alors là, il parle de faire de chaque jour un voyage missionnaire. Avez-vous déjà fait un voyage missionnaire de courte durée, de pose-t-il la question? Je vous demande pas, je sais qu'il y en a qui l'ont fait. N'était-ce pas fascinant? Vous avez mangé des choses bizarres, en riant. Vous avez exploré des contrées étrangères. Vous avez ri aussi en tentant de parler la langue, comme nous, on essaie parfois de parler l'espagnol. Vous avez pleuré en voyant l'extrême pauvreté de ces pays. Peut-être avez-vous souffert d'une maladie au cours de votre voyage, de conditions difficiles ou de la persécution. Je sais que des équipes de JBEC ont été dans des pays où il y a eu des semblants de persécution. C'est pas trop ouvert, parce que c'était pas très longtemps, mais quand même. C'est pas long. Si agréable que fut le retour dans ce cadre et dans le confort de votre maison, il a dû être aussi être une grande déception. On arrivait dans le vrai monde, dans le monde perdu, dans le monde qui a besoin, beaucoup plus peut-être que là à la mission. Vous ressentiez une paix en faisant l'œuvre du royaume, et maintenant cette paix est devenue de moins en moins évidente. Vous retournez à votre routine dans laquelle vous vous sentez comme n'ayant pas de valeur éternelle. Ce qu'on fait tous les jours, le petit train-train quotidien, on sent que ça n'a pas de valeur éternelle. Mais serait-il possible de prolonger cette excitation et cette paix? Qu'en serait-il si la vie pouvait être une mission continuelle? Est-ce même possible dans un monde réel? Non seulement c'est possible, mais c'est exactement ce que Dieu veut. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit en toutes lettres. Et c'était le commandement qu'il a apporté juste avant de quitter. Ça devait avoir une certaine importance. On s'attache au dernier mot d'une personne, dernière parole. Vous souvenez-vous du verset que plusieurs d'entre nous avons entendu lorsque nous avons cru? Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. C'est la parole de Jésus qui est assez percutante et qui nous implique aussi. Une vie abondante. La vie que Dieu veut nous donner en est une d'abondance. Cela ne signifie pas une vie répétitive, mais plutôt une vie remplie. Il veut que nous nous consacrions à des choses ayant une valeur éternelle. Posons-nous la question chaque fois que nous nous engageons à quelque chose ou que nous... Oui, c'est ça. À quelque chose ou que nous achetons. C'est une valeur éternelle, ce que je désire, ce que je veux acheter, etc. Fermons. Dieu désire que nous soyons occupés à grandir son royaume d'une manière ou d'une autre. Et là, je vais vous dire quelque chose. Cela n'implique pas que chaque croyant doive quitter son travail pour aller dans un pays étranger. Mais cela signifie qu'il a besoin de savoir comment faire de chacune de ses journées une journée qui compte pour la réalisation des plans de Dieu. Et même à l'intérieur de votre foyer, à l'intérieur de votre milieu de travail. Paul l'a exprimé ainsi. Celui qui... Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de vie civile afin de donner pleine satisfaction à celui qui l'a enrôlé. Tu te consacres uniquement à celui qui t'a enrôlé. Le reste, ça passe à côté. La plupart d'entre nous, dit-il, ne fait-il pas l'opposé? C'est pas moi qui vous le dis, là. C'est Francis. Francis Chan. Nous sommes occupés avec des tâches de la vie civile et à l'occasion, quand nous nous sentons concernés, nous sautons dans la bataille. Bon, à l'occasion d'une... on va faire une sortie, on va aller distribuer des tracts. Un genre comme ça, là. Ou qu'on participe à une activité par-ci, par-là. Ce type, et c'est devenu, être engagé dans la vie civile est devenu la norme commune. Le type d'engagement, comme une journée de corvée ou d'une réunion de prière, est même encouragé aussi longtemps qu'il nous dirige vers une activité occasionnelle du royaume. Mais l'Écriture ne nous dit-elle pas de vivre de manière différente? Et notre vie ne serait-elle pas plus abondante si nous pouvions trouver un moyen d'être sur le champ de bataille chaque jour? Et là, j'ouvre une grande parenthèse. Comment puis-je être sur le champ de bataille chaque jour? Je me suis posé la question. Comment est-ce que je fais? J'ai des activités. J'ai répondu par d'autres questions. Je me suis répondu par d'autres questions. Qui peut faire des disciples? De qui on peut faire des disciples? Où? Quand? Comment? Ça serait intéressant à un moment donné qu'on ait un atelier là-dessus, parce que les manières sont assez variées. J'arrive à la conclusion que chacun de nous, à credo, consciemment ou non, fait des disciples dans sa famille, au sein de l'Église et aussi dans le monde. Simplement, tout simplement, en montrant par nos manières de vivre qui est Jésus-Christ. Par nos paroles, par nos actions, par notre argent. Ce constat a commencé à me redonner la paix avec moi-même. Mais il reste encore du progrès à faire et du chemin à parcourir. Peut-être on fera un petit atelier là-dessus, parce que ce matin, on n'aurait pas le temps. Mais ce serait bien de voir comment est-ce qu'on peut faire ça, d'être sur le champ de bataille tous les jours. Par des petits moyens très simples, parfois. Un téléphone à quelqu'un, un encouragement à la voisine, porter quelque chose, déneiger une entrée. C'est un témoignage. Déjà là, c'est un témoignage. Bien sûr, on reprend le texte, bien sûr, vous pouvez considérer la vie que vous menez et me dire que vous n'avez pas le choix. N'êtes-vous pas une personne ayant des factures à payer, un travail à faire, une famille, des responsabilités qui vous embarrassent dans des situations de la vie civile? Absolument pas, dit-il. Vous et moi, nous sommes faits pour cela. Là où il y a un commandement, il y a un moyen de le réaliser. Jésus ne nous donnerait jamais quelque chose d'impossible à réaliser. Corinthiens 10, 13 nous dit ceci. Vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, je pense. D'ailleurs, Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir, le moyen d'en sortir pour que vous puissiez en sortir. Un petit peu de redondance là-dedans. Alors, chaque fois qu'il nous confie une tâche, il nous donne la capacité de l'accomplir. La diapo suivante nous dit, « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire. » On parlait de vouloir tout à l'heure. Il suffit de vouloir. Conformément à son projet plein d'amour. Nous donner un ordre et ne pas nous donner la capacité de le réaliser nous rendrait la vie plus frustrante qu'abondante. Vous êtes d'accord? C'est comme si on demandait à Élie de lever un poids de 50 livres, ben, je pense qu'il serait frustré. Hein? Et n'importe quelle personne qui serait quelque chose au-delà de ses capacités. Maintenant, il continue, compléter des tâches avec excellence est une des joies de la vie. Nous aimons quand nous réussissons un examen après avoir étudié comme des fous. Je pense qu'il y en a plusieurs ici qui sont, sauf s'il y en a. Moi, c'est un peu loin. J'ai jamais étudié comme un fou. Faut le dire. Peut-être a été vécu un petit peu plus, mais... Ou quand nous gagnons un jeu après nous être battus avec tout ce que nous avons à notre disposition. Un concours de balles de neige ou quelque chose. Mais on est joyeux, on a gagné, on a réussi. Nous sommes envieux quand nous regardons les athlètes des Jeux Olympiques, d'ailleurs vous allez avoir l'occasion, gagner la médaille d'or après des années de consécration. Pas une fois, pas un effort ponctuel, un effort continu sur 5 ans, 4 ans, et même parfois 12 ans quand ça fait leur troisième jeu. Nous aimons voir le travail acharné payé en retour. Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. Ephésiens 2:10, il nous a créés pour quoi exactement?
Pour une vie riche d'œuvres bonnes. Une vie riche, donc c'est abondant d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions.
Et voici une chose surprenante. Non seulement Dieu nous donne des commandements, non seulement il nous donne la capacité de les réaliser, mais encore, il nous récompense quand on a réalisé ce qu'il nous a commandé. Pourtant, un travail, c'est un travail, mais lui, il récompense. Voilà ce qu'est la vie abondante. Quiconque ayant toute sa tête ne peut ignorer les mots que Jésus a prononcés. Allez donc dans le monde entier faire des disciples parmi tous les peuples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai testé. Le monde entier, c'est pas tout le monde qui va aller dans le monde entier. Le monde entier, pour vous, c'est peut-être la rue à côté. Ça peut être ça aussi. Alors, faut pas s'en faire si on peut pas aller au bout du monde. Bien sûr. Ceux qui veulent y aller, ceux qui ont les moyens, ou qui sont capables, ou qui sont appelés à y aller. On voyage pas mal. C'est vrai. Jésus voulait des gens provenant de chaque nation qui le suivraient sur terre. Ainsi, il commandait aux disciples de les atteindre et de les enseigner. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et quand je disais tout à l'heure que tout le monde dans l'Assemblée pourrait faire des disciples, je disais bien tout le monde. Si on a les yeux ouverts, qu'on regarde quelqu'un faire quelque chose ou parler avec quelqu'un, on peut en apprendre quelque chose, non seulement de ce qu'il dit, mais surtout le ton, la manière, etc. C'est édifiant. Donc, font un disciple, ça renforce le disciple dans un domaine. Et même un enfant peut nous montrer quelque chose qu'on ne pratique peut-être pas nous-mêmes. Mais l'œuvre n'est pas encore achevée. Il s'attend à ce que nous marchions dans ses traces et structurions nos vies de manière à ce que nos actions continuent la mission. Et juste des petites statistiques qu'il donne. L'Église a commencé en acte 2 quand 3000 personnes furent converties. Ça, c'était le début. Selon un rapport de 1992, on estime que l'an 100, c'est juste avant 101, il y avait 35 000 disciples. Et qu'en 350 après Jésus-Christ, combien pouvait y en avoir? 300 millions. Ça a cru, hein? Ça a grandi, ça s'est multiplié. Comment cette Église a-t-elle pu croître à cette vitesse incroyable et particulièrement sous la persécution? Les premiers disciples ont clairement vu et rempli leur ordre de mission. L'Église de Chine, puisqu'il est allé la voir, a la même pensée. Ainsi, nous ne devrions pas être surpris d'apprendre que les résultats sont semblables. Selon le même document, la Chine disait qu'en 1950, elle comptait 1 million de disciples. 1950. qu'en 1992, un bureau de statistiques nationales, c'est pas des chiffres perdus quelque part, indiquait qu'il y avait 75 millions de chrétiens en Chine. Vous allez me dire, la Chine, il y a quelques milliards de personnes, mais 75 millions, c'est quand même une belle croissance depuis 1950. Est-il donc impossible de croire que les chrétiens puissent avoir la même pensée, la même expérience et le même réveil en Amérique? Là, il parlait de l'Amérique plus américaine, mais on peut parler de l'Amérique générale. En fin de compte, il importe peu que vous aimiez ou non cette stratégie. Non, on n'a pas le choix. La réalité, c'est la réalité d'un commandement. Question. Comment croyez-vous que votre patron réagirait si vous refusiez de remplir un travail pour lequel vous avez été engagé? Qui oserait? Qui oserait? La plupart d'entre nous n'envisageraient pas une telle option. Alors comment pouvons-nous ignorer le roi de l'univers qui un jour va être devant toi? Ou nous serons devant lui? Il va revenir comme juge. Certains vont dire trop difficile, et il continue son texte. Ce commandement peut nous paraître irréalisable. Plusieurs d'entre nous vivent des vies remplies et se sentent parfois sur le point de craquer. C'est vrai. Les mamans qui ont plusieurs enfants, l'école, ici, le sol, les repas, on peut être sur le point de craquer. Comment Jésus, qui disait « Mon joug est doux et mon fardeau léger », mettrait-il un fardeau si lourd sur nous? La réponse serait de considérer qui nous accompagne sous le joug. À qui sommes-nous liés? Vous pouvez facilement vous imaginer deux bœufs. Hein? D'ailleurs, on ne met pas d'attelage disparate, là. Deux bœufs sous un joug, ou deux chevaux sous un joug. Imaginez-vous Jésus à côté de vous sous le même joug. On ne fait plus rien. C'est Jésus qui fait tout. Maintenant, qui ne voudrait pas d'une situation semblable? Ne serait-ce pas un honneur plutôt qu'un fardeau d'être sous le joug avec Jésus? Jésus termine son commandement en nous réconfortant. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde, sous le même joug, bien entendu. Il promet d'accompagner ses ouvriers jusqu'à ce que l'œuvre soit accomplie. C'est ce qui nous donne la paix, la confiance et même l'anticipation. De me rappeler que Jésus est avec moi sous le même joug, ça commence à me remettre d'aplomb. Va-t-on passer à côté? Quand les gens disent qu'ils ne se sentent pas près de Jésus, Jésus près d'eux, ça on en a parlé tout à l'heure, sentir Jésus près d'eux, je leur demande s'ils font des disciples. Après tout, sa promesse d'être à nos côtés jusqu'à la fin du monde est liée directement à son commandement de faire des disciples. Ce n'est pas une promesse pour tout le monde. C'est la promesse pour ceux qui vont en faire. Bien sûr, Jésus est là, Jésus est disponible. Mais cette promesse-là est spécifique pour ça. Alors que chaque chrétien veut expérimenter la puissance de l'Esprit-Saint, nous oublions souvent que cette puissance est donnée à ceux qui sont ses témoins. Acte 1-8, qui dit...
Quelqu'un veut lire? Comment ça va se faire? Quelqu'un veut lire?
Est-ce qu'on va refuser? Est-ce qu'on va refuser de faire le travail? Je me pose la question, moi. Est-ce que je vais refuser? Je pense que là, j'ai assez tergiversé, il est temps que je me mette à l'ouvrage. Il n'y a rien de plus excitant que d'expérimenter la puissance directe de Dieu. Nous aurions tous aimé nous tenir aux côtés d'Élie, alors qu'il appelait le feu du ciel, ou marcher à côté de Daniel dans la fosse aux lions. On aurait aimé ça être à côté, hein, fait petit velours. Ou de voir Pierre et Jean dire aux paralytiques, « Lève-toi et marche. » On aurait aimé ça. Eux, ils expérimentaient la puissance de l'Esprit. Mais ces miracles se sont produits quand les serviteurs témoignaient dans des situations dangereuses, risquées. Quand nous refusons de vivre par la foi, nous ne voyons pas la puissance de l'Esprit, nous manquons d'expérimenter Christ quand nous ne parlons pas de lui, dit Francis Chan. Ce qui est le plus tragique, c'est que nous pouvons expérimenter Dieu, mais à la place, on a autre chose, hein, on a un choix. Expérimenter Dieu ou la culpabilité. Notre peur de le suivre à faire des disciples dans une vie passée laisse en nous un sentiment de déception, le sentiment d'un manque de paix avec soi-même. On dit, oui, il y a ça, puis ah, ça me chicote, puis ça fait un bout de temps que je devrais... Je pense qu'il n'y a pas le seul domaine de notre vie chrétienne qui est comme ça, mais c'en est un. N'avez-vous pas lutté avec cette sorte de culpabilité? Nous lisons la Bible et croyons que Jésus est le seul chemin pour aller au ciel. Nous craignons que ceux qui meurent sans Christ doivent faire face à un avenir horrible. Mais pour une raison quelconque, nous ne faisons pas d'efforts pour avertir notre famille et nos amis. Nous avons des voisins, des collègues de travail et autres personnes auprès desquelles nous passons chaque jour sans dire un mot sur Jésus, ou sans même témoigner par son comportement. En considérant votre vie, vous dites peut-être, comme il dit, « Ceci n'a pas de sens. Soit je ne crois pas vraiment à la Bible, ou je manque totalement d'amour. Soit je crains plus le rejet que la destinée éternelle d'une personne. » J'ai passé la majeure partie de ma vie avec la culpabilité, dit-il. Parce que je savais que mes actions n'avaient aucun rapport avec mes croyances. C'est venant d'un pasteur, je ne le connais pas intimement, mais venant de Francis Chan, qui a écrit le livre sur Crazy Love, c'est surprenant. Mais bon, il met peut-être de l'accent. Dieu ne veut pas que nous vivions ainsi. Il veut nous libérer de la culpabilité et nous offrir une vie, comme on a dit tout à l'heure, abondante. Mais la solution n'est pas d'ignorer cette culpabilité, ni de justifier nos actions en nous comparant aux autres qui sont tout aussi complètement... Les autres sont pareils, hein, je suis pas tout seul. La réponse, c'est la repentance. Changeons. Ça, c'était textuel, hein. Ce que je vous lis là, c'est toujours son texte. La culpabilité n'est pas toujours une bonne chose. Parfois, oui. Elle n'est bonne que si elle nous conduit du chagrin ancien, ou à la joie de la repentance. Souvenez-vous du jeune homme riche qui s'en alla tout triste pendant que Zachée, qui était aussi riche, est descendu d'un arbre avec excitation. Le jeune homme riche était triste car il n'avait pas prêt à quitter ses richesses. Zachée a quitté son orgueil et ses possessions pour suivre joyeusement Christ. Voilà ce que Christ veut pour vous. C'est moi aussi. C'est pour nous ce qu'il écrit. Il est temps d'échanger notre peine et notre culpabilité pour la joie du Seigneur. Regardons.
La peine de tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un frappant d'attitude pour conduire au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde aide le plus le monde.
Important. Finir en beauté? Nous avons tous fait des erreurs. Et vivre dans le passé peut nous détruire. La solution est de faire un maximum avec le temps qu'il nous reste sur cette terre. On ne sait pas le temps qu'il nous reste. C'est une journée. Mais si on n'a pas utilisé cette journée, demain c'est fini. L'avertissement était là. C'est à nous de voir. Paul a fait une étonnante déclaration à ce sujet. En Actes 20, 26 et 27. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui, je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. Paul a délivré tout le conseil de Dieu à ceux qu'il a rencontrés. Tout. Tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire, les commandements, les encouragements, les exhortations, etc. Tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Est-ce qu'on n'aimerait pas être capable d'en dire autant? Paul pouvait vivre en paix avec lui-même car il n'avait pas reculé. Il disait tout ce qu'il fallait dire. De la même manière qu'un athlète olympique attend sa médaille d'or, ainsi l'œuvre de Paul était terminée. Il ne lui restait qu'à recevoir sa couronne. J'ai terminé, Paul a terminé la tâche qui lui a été donnée, tout comme Jésus qui disait, j'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. On loue Dieu, on parle de sa gloire, je parle pour moi, et parfois, on est loin. Si tu veux vraiment louer Dieu, je me dis, ben, fais ce qu'il te demande. Là, tu vas le louer véritablement, et non seulement des lèvres. Maintenant, imaginez-vous disant ces mêmes paroles à Dieu. Je fais connaître ta gloire. J'ai accompli l'œuvre que tu m'avais confiée. Est-ce qu'on va être capable de le dire? Est-ce que je vais être capable de le dire, moi, personnellement? Bien sûr, il y a la grâce. Il y a toujours la grâce. Comme une bouée de sauvetage. Imaginez-vous quelque chose de meilleur que d'approcher de son trône en sachant que vous avez accompli, que nous avons accompli ce qu'il nous avait demandé. Il est difficile de croire que nous pourrons entendre la voix de Jésus directement, nous reconnaissant devant le Père. Mais il l'a promis. C'est pourquoi tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai aussi pour eux devant mon Père céleste. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas, non plus devant mon Père céleste. Je crois qu'il est temps pour nous d'arrêter de le renier, dit-il. C'est pas mon texte, là, mais je le prends pour moi. Nous avons manqué trop longtemps d'expérimenter sa présence et il est temps de passer outre nos craintes et nous mettre au travail. Pour terminer sur une petite note, ceux qui ont déjà un certain âge peut-être, ou un âge certain, vous avez tous vu Mission Impossible. Hein? Bon, ben alors là, Jésus, l'Éternel, nous envoie une mission. Impossible.
Ou possible. Quelqu'un pour lire.
Bonjour, cher. La planète Terre est encore remplie de personnes refusant mon autorité. Ce qui fait en sorte que la guerre, la violence, les famines, la désobéissance qui règne en elle, au lieu de l'amour que mon fils est venu démontrer et demander à Dieu. Sa mission, si tu l'acceptes, consiste à porter à tous, sans distinction, le message d'amour et de réconciliation pour lequel mon fils a donné sa vie il y a plus de 2000 ans. Ce message ne se produira pas dans les 5 secondes, mais demeurera entre tes mains jusqu'à la fin des temps, afin que tu n'oublies pas que tu es le messager que j'ai choisi de toute éternité. L'éternel est ton Dieu.
C'est pas Francis Chan, c'est pas Francis Chan qui écrit ça, je pense qu'il n'aurait pas osé. Je sais pas. Tu veux une copie?
Couleur.
Ceux qui voudront une copie du message écrit, je pourrais l'envoyer par courrier. Maintenant, ça, oui, je peux te l'envoyer aussi. Je peux t'envoyer l'image. Oui, si tu veux. Et puis on peut se la rappeler sur le frigo. Pof! Alors, on va terminer par un mot de prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prier? Je vais prier donc. Notre Dieu, notre Père, on vient d'avoir relire un texte écrit par un de nos frères dans la foi. Un frère qui n'a pas eu peur de quitter une position confortable au sein d'une église, une méga église, avec des capacités pour l'écriture, pour l'exhortation, etc. Et nous, à notre mesure, nous avons aussi la même puissance que lui, si nous nous fions à l'Esprit-Saint, si nous laissons l'Esprit-Saint agir en nous. Mais on a trop tendance souvent à penser à nos forces, à nos capacités. Je serai jamais capable, je n'aurai pas quoi dire. Mais le Seigneur a dit qu'il mettrait ses paroles dans notre bouche. Encore faut-il que l'Esprit-Saint nous les rappelle, et encore faut-il pour que ça se fasse, qu'on les apprenne. Vient un temps, Seigneur, on a parlé Tu veux parler, Seigneur Dieu, à travers nos bouches, mais tu veux aussi que nous agissions. Et agir, c'est dans le quotidien, chaque petite chose qu'on peut faire en pensant à Dieu, en le remerciant pour ce qu'on a autour. On n'a qu'à regarder par la fenêtre, on n'a qu'à regarder les enfants qui grandissent, on n'a qu'à regarder tout ce que tu nous donnes, Seigneur, jour après jour, et te dire, on veut faire ta volonté, Seigneur. On veut avancer. Envoie-nous ton, donne-nous la puissance de ton Esprit Saint. C'est à nous d'aller la chercher. Elle est là, elle est disponible, elle est inépuisable. Et merci pour cela, Seigneur. Que ma vie et que notre vie soit changée, Seigneur, cette semaine. Qu'on puisse réfléchir sur ce que tu nous as donné comme commandement. Et toutes les promesses qui vont avec, d'être avec nous sous le même joug. Ça, c'est une promesse. On peut entreprendre ce qu'on veut. On est certain qu'on a notre compagnon, Jésus, qui est à côté de nous, et qui va mener la barque, et qui va mener les bœufs, et qui va mener tout ce qu'il faut. Seigneur, et même la charrue, pour labourer dans les terrains difficiles de ce monde. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. De rien. Est-ce qu'il y a un cantique après? Non?